Chapitre 12. Après sa visite à Jim Harlan, Duane passa un moment assis à l'ombre sur la place du palais de justice à boire son café et à réfléchir. Il ne connaissait pas assez Jim pour savoir s'il disait la vérité lorsqu'il affirmait n'avoir aucun souvenir de ce qui s'était passé le samedi soir. Mais pourquoi mentirait-il? On pouvait envisager plusieurs possibilités. 1. Jim avait peut-être eu tellement peur qu'il ne voulait pas ou ne pouvait pas en parler. 2. On lui avait ordonné de se taire en utilisant des moyens de pression suffisants pour le convaincre d'obéir. 3. Jim protégeait quelqu'un. Duane finit sa tasse de café et revissa rêveusement le bouchon de sa thermos. La dernière explication semblait la moins plausible. C'était la première qui paraissait la plus acceptable, bien que fondée sur sa seule intuition. Duane n'avait aucune preuve que Jim Harlan mentait. Une blessure à la tête assez grave pour le laisser inconscient pendant 24 heures pouvait sans nul doute oblitérer tout souvenir de l'épisode qu'il avait provoqué. Mieux valait accepter l'amnésie de Jim, quitte à la remettre en cause plus tard. Duane traversa la place, arriva devant la bibliothèque municipale et hésita à entrer. Qu'espérait-il trouver qui lui permette de fournir à O'Rourke et compagnie une explication rationnelle à la fois à la disparition de Tubby, au trou dans la cabane de Van Syke, à la chute d'Harlan, à son propre assassinat manqué et à tout le reste? Et pourquoi dans une bibliothèque? Pourquoi imaginer que dans l'histoire d'Old Central, il trouverait un lien entre ce qui n'était que plusieurs manifestations de la folie d'une seule personne, sans doute Van Syke? Mais toute sa vie, Duane avait fouillé dans les bibliothèques et il y avait toujours trouvé les réponses aux questions que se pose un enfant trop intelligent pour son bien. De plus, dans une bibliothèque, on était libre. Personne ne vous demandait pourquoi vous vouliez consulter tel ou tel ouvrage. Il devait bien exister des problèmes que ne résolvaient pas une ou plusieurs visites à la bibliothèque adéquate, mais Duane n'en avait encore jamais rencontré. Et puis, il fallait reconnaître que toute cette effervescence, disproportionnée par rapport à ce qui s'était passé, venait en fait de leur méfiance vis-à-vis d'Old Central. Ils s'y sentaient mal à l'aise bien avant que Tubby ne disparaisse. Oui, il aurait dû aller à cette bibliothèque depuis longtemps déjà. Duane cacha sa thermos dans les fusains bordant l'escalier et monta. Cela lui prit bien plus de temps qu'il ne l'avait prévu, mais Duane finit par trouver ce qu'il cherchait. La bibliothèque municipale d'Oak Hill n'était équipée que d'un seul lecteur de microfiche, mais peu de documents se trouvaient sur microfiche. Pour obtenir des détails sur l'histoire d'Elmhaven et en particulier sur Old Central, il dut compulser les piles d'archives déposées là par la Société historique du comté de Crèvecœur. Duane savait qu'en fait, cette association n'avait jamais compté qu'un seul historien, Paul Priestman, ancien professeur à l'université de Bradley et spécialisé d'histoire locale, décédé un an plus tôt. Old Central avait joué un rôle important dans l'histoire d'Elmhaven et même du comté. Les notes de Duane à ce sujet remplirent la moitié de son carnet. Chaque fois que le jeune garçon entrait dans une bibliothèque, il regrettait qu'elle ne soit pas équipée d'une de ces nouvelles machines à photocopier utilisées depuis peu dans les milieux d'affaires. Il lui aurait été alors bien plus facile de garder trace des renseignements glanés dans les ouvrages à consulter sur place. Duane contempla les photographies illustrant le récit de la construction d'Old Central, puis, quelques pages plus loin, d'autres photos sur lesquelles posaient gravement les personnes assistant aux cérémonies d'inauguration à la fin de l'été, les participants au pique-nique des pionniers, organisé cette année-là sur le terrain de sport de l'école, et la première classe qui s'était installée dans le nouvel établissement. 29 élèves qui avaient dû se sentir bien perdus dans cet immense édifice. Une photographie immortalisait l'arrivée d'une cloche à la gare d'Elmhaven et une légende en caractère gras indiquait « Monsieur et Madame Ashley, ainsi que notre maire Monsieur Wilson, accueillent la cloche des Borgia destinée à la nouvelle école. » Puis en dessous, ce commentaire en caractère plus petit « Cette cloche chargée d'histoire viendra glorieusement couronner notre citadelle du savoir. » Duane s'arrêta. Il avait toujours vu le clocher d'Old Central condamné par des planches et n'avait jamais entendu parler de cloche, encore moins d'une cloche des Borgia. Il examina la photo. La cloche était encore dans une caisse sur le wagon, une masse de fonte assez peu visible, mais de toute évidence énorme. deux fois plus grande que les deux hommes qui échangeaient une poignée de main à côté au centre de la photo. L'homme moustachu et bien habillé, accompagné d'une dame élégante, était sans doute M. Ashley, et le petit barbu au chapeau melon, le maire. La base de la cloche devait mesurer 2,50 m à 3 m de diamètre. Bien que la photo fût trop floue pour laisser apparaître beaucoup de détails, en se servant de ses lunettes comme d'une loupe, Dwayne distingua une sorte de frise ou bien des inscriptions tout autour de la cloche, aux deux tiers de sa hauteur. Il essaya de calculer le poids d'une cloche de 2,50 m de diamètre et de 3,50 m de haut, mais il n'y arriva pas. L'idée de cette masse accrochée toutes ces années à des poutres vermoulues au-dessus de sa tête et de celle des autres écoliers lui donna froid dans le dos. Elle ne pouvait tout de même pas se trouver encore là-haut. Il passa plusieurs heures à consulter les publications de la Société historique et fit un long séjour dans la poussiéreuse salle des archives, un réduit sombre que Madame Frazier et les autres employés de la bibliothèque utilisaient comme pièce de repos, pour fouiller les grands dossiers contenant les anciens numéros de l'Oak Hill Sentinel Times Call. Il glana une foule de renseignements dans les articles datant de l'été 1876, où les auteurs s'étendaient, dans le style grandiloquent de l'époque, sur la cloche des Borgia et son importance historique. C'était M. et Mme Ashley qui l'avaient découverte dans un entrepôt de la banlieue de Rome, lors de leur lune de miel en Europe. Après en avoir fait vérifier l'authenticité par divers experts locaux et étrangers, il avait acheté 600 dollars dans le but d'en faire l'orgueil de l'école, à la construction de laquelle leur famille avait si ardemment contribué. Écrivant à toute vitesse, Dwayne termina son carnet et en entama un nouveau. Plusieurs pages de l'ouvrage du professeur Priestman et au moins 5 articles de journaux racontaient le voyage de la cloche de Rome à Elmhaven. Un destin fatal semblait frapper tous ceux qui l'approchaient. Alors que les Ashley faisaient voile vers les États-Unis, l'entrepôt renfermant la cloche avait brûlé de fond en comble. L'incendie avait fait 3 victimes qui apparemment logeaient sur place et détruit la plupart des autres antiquités conservées là. Toutefois, la cloche avait été retrouvée, noircie, mais intacte. L'HMS Erebus, transportant la cloche à New York, un cargo battant pavillon britannique, avait failli faire naufrage en rencontrant au large des Canaries une tempête tout à fait inattendue pour la saison. On avait réussi à le remorquer jusqu'à un port et à transborder la cargaison sur un autre bateau, mais 5 marins s'étaient noyés et un autre avait été écrasé à cause d'un soudain déplacement de la cargaison dans la soute. Aucun autre désastre n'avait marqué le mois où la cloche était restée en souffrance à New York, mais il s'en était fallu de peu qu'elle ne fût perdue à cause d'une erreur d'étiquetage. Des hommes d'affaires new-yorkais au service de la famille Ashley avaient fini par la retrouver et ils avaient organisé une grande réception au musée d'histoire naturelle de la ville pour fêter l'événement. Mark Twain, P.T. Barnum et le premier John D. Rockefeller comptaient parmi les invités. Ensuite, la cloche avait été chargée sur un train de marchandises en partance pour Peoria et le malheur qui paraissait l'accompagner s'était de nouveau manifesté. Le train avait déraillé près de Johnstown en Pennsylvanie et le convoi parti à la rescousse avait provoqué l'effondrement d'un pont à l'entrée de Richmond dans l'Indiana. Les comptes rendus des deux accidents n'étaient pas très clairs. Mais il n'y avait eu, semble-t-il, aucune victime. La cloche était enfin arrivée à Elmhaven le 14 juillet 1876 et on l'avait accrochée dans le clocher plusieurs semaines plus tard. Cet été-là, elle avait été au centre de la foire des pionniers et il y avait eu plusieurs cérémonies de consécration, dont l'une fut l'occasion de la venue à Peoria d'historiens et de célébrités de Chicago arrivées par train spécial. Elle était à sa place dans le clocher à temps pour la rentrée scolaire le 3 septembre, car un éditorial sur cette rentrée de l'année 1876 dans le comté de Crèvecœur était illustré d'une photographie d'Old Central au milieu d'un terrain étrangement dénudé. Elle avait pour légende « Une cloche historique appelle les écoliers vers le savoir ». Dwayne s'appuya au dossier de sa chaise, essuya son visage couvert de transpiration à l'ourlet de sa chemise et ferma l'album relié. Quel dommage que l'explication donnée à Madame Frazier, un soi-disant essai à rédiger sur Old Central, ne fut qu'un mensonge. Il parcourut 4 volumes des Annales de la Société historique avant de s'apercevoir qu'il en manquait une partie. Il y avait bien un recueil général 1875-1885, mais il ne comportait guère que des photographies et une liste de manifestations officielles. Le professeur Priestmann avait rédigé une histoire plus érudite et plus détaillée de cette décennie, intitulée « Monographies, documents et sources originales », avec pour chaque année la date indiquée entre parenthèses. Or, l'année 1876 manquait. Duane descendit voir Madame Frazier.
« Excusez-moi, madame, mais pourriez-vous me dire où sont archivés les papiers de la Société historique ?»
La bibliothécaire sourit et enleva ses lunettes.
« Bien sûr, mon petit. Après le décès du professeur Priestmann, les dames qui avaient organisé la souscription au profit de la Société historique ont fait don de tous ces documents et ouvrages inédits à…
l'Université de Bradley ?»
Il lui semblait normal que l'établissement où l'éminent historien avait fait ses études, puis enseigné de nombreuses années, fût l'héritier du fruit de ses recherches. Madame Frazier eut l'air surpris.
« Oh non, mon petit. Les papiers sont allés à la famille qui a le plus aidé les recherches du professeur Priestmann. Je pense qu'il en était convenu ainsi. »
« C'est-à-dire ? » ?»«
Les Ashley Montaigu, bien sûr. Toi qui es d'Elmaven ou des environs, tu as certainement entendu parler des Ashley Montaigu. »
Duane acquiesça, remercia, s'assura qu'il avait bien rangé les livres consultés et qu'il n'avait pas oublié ses carnets, sortit et récupéra sa thermos tout étonné de l'heure tardive. Il aurait bien aimé retourner à l'hôpital pour essayer de parler à Jim, mais le moment du repas approchait et la mère du blessé serait sûrement auprès de lui. De plus, il lui faudrait bien 2 ou 3 heures pour retourner à pied chez lui et son père s'inquiéterait s'il ne le voyait pas revenir avant la nuit. Tout en pensant à la cloche des Borgia peut-être encore accrochée dans le clocher condamné d'Old Central, comme un secret oublié, il se dirigea vers la voie de chemin de fer et sa maison. Cette fois, il s'autorisa à siffloter. Mike décida d'abandonner. Le lundi après-midi et toute la matinée du mardi, il avait fait de son mieux pour retrouver Carl Van Zyck, mais celui-ci était introuvable. En restant près d'Old Central, il avait vu Roon faire une brève apparition le mardi matin à 8h30 et attendu jusqu'à l'arrivée, 1 heure plus tard, d'un groupe d'ouvriers venus avec un camion-grue condamner les étages supérieurs. Il avait continué de traîner dans le coin jusqu'à ce que Roon lui fasse signe de déguerpir. Il avait fait le tour des endroits que fréquentait habituellement Van Zyck. La taverne de Carl renfermait son contingent habituel de buveurs, y compris le père de Duane McBride, mais pas Van Zyck. Il avait téléphoné d'une cabine à la taverne de l'Arbre Noir, mais le propriétaire lui avait répondu qu'il n'avait pas vu Van Zyck depuis des semaines. Et d'abord, qui était à l'appareil? Mike avait raccroché précipitamment. Comme Van Zyck et le shérif étaient toujours fourrés ensemble, il était allé jusqu'à la maison de J.P. Congdon, au bout de Depot Street, mais la Chevrolet noire n'était pas là et la maison semblait vide. Il avait aussi envisagé de suivre la voie ferrée pour rôder autour de l'ancienne usine de Suif, mais il était peu probable que Van Zyck s'y trouve. Mike resta un long moment couché dans l'herbe haute près du terrain de baseball à mâchonner un brin d'herbe en regardant les rares véhicules qui débouchaient de First Avenue. Des pick-up poussiéreux conduits par des fermiers et de grosses voitures anciennes, mais pas la moindre trace du camion d'écarissage avec Van Zyck au volant. Il soupira, se tourna sur le dos, contempla le ciel. Il savait bien ce qu'il aurait dû faire. Aller jusqu'au cimetière vérifier si Van Zyck était dans la cabane à outils. Mais il avait beau se raisonner, il ne pouvait s'y résoudre. Le souvenir de la cabane, du soldat et de la silhouette dans la cour la veille au soir le paralysait. Il se remit sur le ventre et regarda le camion laitier du père de Kevin Grumbacher arriver de Jubilee College Road. Il n'était pas encore midi et M. Grumbacher avait déjà collecté le lait de toutes les fermes du comté. Le camion se dirigeait vers la laiterie Cahill, à 12 kilomètres. M. Grumbacher avait presque fini sa journée de travail. Il ne lui restait plus qu'à rentrer chez lui, à rincer son camion et à faire le plein à la pompe dans sa cour. En se tournant sur le côté, Mike voyait la maison des Grumbacher à côté de celle de Dale. 5 ans plus tôt, juste avant l'arrivée de Dale et de sa famille, le père de Kevin avait acheté une vieille masure abandonnée, l'avait rasée et avait construit la seule maison sans étage du vieux quartier de la ville. C'est M. Grumbacher lui-même qui avait manœuvré le bulldozer pour tasser la terre en monticule, de sorte que la maison neuve était juchée plus haut que les fenêtres du rez-de-chaussée de Dale. Les rares fois où Mike était allé chez Kevin, il ne s'y était pas senti très à l'aise. La maison était climatisée, le seul endroit ainsi rafraîchi dans lequel Mike fût jamais entré à part le cinéma d'Oak Hill, et il y régnait une odeur bizarre, une odeur de renfermé ou plutôt de neuf attardé. Les lieux ne semblaient pas vraiment habités. Le coûteux salon était protégé par des housses de plastique crissant, la cuisine avec le seul lave-vaisselle que Mike ait jamais vu était toujours impeccable, et Madame Grumbacher devait astiquer tous les matins la longue table en merisier de la salle à manger. Lorsque Kevin les invitait à jouer chez lui, ce qui était assez rare, les enfants allaient directement au sous-sol, où il y avait une table de ping-pong, une télévision, en plus des deux autres en haut, d'après Kevin, et un train électrique avec un circuit compliqué. Mike aurait adoré s'amuser avec le train, mais Kevin n'était autorisé à jouer avec qu'en présence de son père, et M. Grumbacher passait la plupart des après-midi à dormir. Il y avait aussi, au fond de la pièce, un long évier en tôle, aussi rutilant que le reste de la maison. Kevin avait expliqué que son père l'avait installé pour y faire naviguer les petits bateaux à moteur qu'ils construisaient ensemble. Mais Mike, Dale et les autres enfants avaient seulement le droit de les regarder. Ils ne pouvaient ni toucher ni manœuvrer la télécommande. La bande ne passait guère de temps chez Kevin. Mike se leva et se dirigea vers la maison de Dale. Toutes ces idées qu'il ressassait dans sa tête étaient de simples prétextes pour éviter de penser aux soldats. Allongé sur le talus herbeux séparant les entrées de leurs deux maisons, Dale et Kevin attendaient que Lawrence lance un petit planeur en bois de balsa pour essayer d'abattre l'avion avec des graviers. Lawrence se hâta de lancer son appareil et se jeta sur le sol pour ne pas être touché par les missiles. Mike prit une poignée de gravier et s'aplatit sur le dos à côté des deux autres. La règle semblait être de toucher l'engin sans décoller la tête de l'herbe. Les graviers volèrent, le planeur fit un looping, vola vers le gros chêne dont les branches atteignaient la fenêtre de Dale au premier étage et alla atterrir indemne dans l'allée. Tous trois ramassèrent une poignée de munitions, tandis que Lawrence récupérait son avion et lui redressait les ailes et la queue.
« On envoie des graviers sur la pelouse. Tu vas t'amuser pour tondre, » dit Mike à Dale. « J'ai promis à maman qu'on les ramasserait quand on aura fini, »
expliqua Dale en pliant le bras pour son premier lancer. Le planeur vola très haut et ils manquèrent tous la première attaque, pourtant effectuée avec l'accompagnement sonore adéquat. Mike toucha la cible avec un second missile, qui brisa l'aile droite et fit tomber l'avion en chandelle dans l'herbe. Tous trois imitèrent des bruits de moteurs touchés, de détonations, d'avions s'écrasant au sol. Lawrence retira l'aile cassée et courut en chercher une autre dans un tas de pièces détachées à côté d'une souche.
« Je n'ai pas pu trouver Van Syke »,
avoua Mike du ton qu'il prenait au confessionnal. Kevin empilait des cailloux du bon gabarit à côté de lui. Ses parents à lui ne le laisseraient jamais lancer des cailloux dans leur pelouse.
« C'était pas grave, » reprit-il. « J'ai suivi Roon ce matin, il n'a rien fait. Il a juste surveillé les ouvriers qui condamnaient les fenêtres de l'école. »
Mike tourna la tête vers son ancien établissement. Old Central paraissait différente avec toutes ses planches clouées aux fenêtres sur quatre niveaux en comptant le sous-sol. L'école semblait frappée d'une étrange cécité. Maintenant, seules les petites fenêtres en chien assis du toit pentu avaient encore des vitres, et Mike connaissait peu d'enfants capables de lancer une pierre à cette hauteur. Les ouvertures du clocher avaient toujours été condamnées.
« Peut-être que filer les gens n'est pas une idée si géniale que ça », suggéra Mike.
Lawrence mettait du Chatterton à son planeur.
« Un blindage !» expliqua-t-il.
« En tout cas, ce matin, j'ai pas trouvé ça génial du tout », dit Dale.
Les deux autres cessèrent d'empiler leurs munitions pour écouter le récit de son aventure sur la voie ferrée.
« Bon Dieu !» souffla Kevin. « Homicide volontaire !»«
Qu'est-ce qu'elle a fait, Cordy, après ?»
demanda Mike en essayant d'imaginer quel effet cela pouvait faire d'avoir un fusil braqué sur le visage. Si Jake Ogden avait bien tenté de s'en prendre une fois ou deux à Mike quand il était petit, mais Mike s'était défendu avec tant de hargne et de férocité que les deux gros durs du bourg avaient plutôt tendance à le laisser tranquille.
« Elle est allée descendre Roon ?»«
On l'aurait entendu, » répondit Dale.
« Elle a peut-être utilisé un silencieux, » suggéra Mike.
Kevin fit une grimace.
« Imbécile ! Les fusils n'ont pas de silencieux !» Je plaisantais. « Et après ?»
Dale haussa les épaules.
« Après, rien. Je dois faire gaffe à CJ ?»
Tu n'en as pas parlé à ta mère ?
Et comment je lui aurais expliqué que je surveillais la maison de Cordy avec les jumelles de mon père, hein ?
Mike fit la grimace et acquiesça. Jouer les voyeurs était une chose. Le faire chez Cordy n'avait aucun sens.
Si CJ s'en prend à toi, je t'aiderai. Il est méchant mais bête comme ses pieds. Et Archie Craig est encore plus bête. Mets-toi du côté de son œil de verre et il est cuit.
Dale approuva, mais il avait l'air inquiet. Mike savait que les bagarres n'étaient pas son fort. C'était même une des raisons pour lesquelles ils étaient copains. Il l'entendit marmonner.
Quoi ?
Lawrence leur criait quelque chose de l'autre bout de l'allée.
Je ne suis même pas retourné chercher mon vélo,
répéta Dale. Mike reconnut le ton qu'il utilisait lui-même pour avouer ses péchés les plus graves.
Où est-ce qu'il est ?
Caché dans les broussailles, derrière l'ancienne gare de marchandises.
Pour le récupérer, Dale serait obligé de passer devant chez Camden.
Je te le ramènerai,
proposa Mike. Dale lui lança un regard à la fois soulagé, embarrassé et irrité. Il devait s'en vouloir de se sentir aussi soulagé.
Pourquoi tu ferais ça ? C'est mon vélo ?
Mike haussa les épaules, mâchonna un brin d'herbe.
C'est comme tu veux. Moi, de toute façon, je dois passer par là tout à l'heure pour aller à l'église, alors je peux te le ramener. Réfléchis, CJ n'a rien contre moi. Et si on m'avait déjà braqué un fusil sur la figure, ça me suffirait pour la journée. J'irai le chercher après déjeuner. J'ai une course à faire pour le père Cavano.
Un autre mensonge. À confesser ou pas ? Sans doute que non, pensa-t-il. Cette fois, le visage de Dale exprima un soulagement si intense que, pour le cacher, il baissa la tête en faisant semblant de compter ses cailloux.
D'accord, répondit-il très bas. Merci.
Lawrence s'approcha d'eux, son avion blindé à la main.
Vous êtes prêt, Patate, ou vous allez passer toute la journée à discuter ?
Prêt !
Cria Dale.
Lancement !
Renchérit Kevin.
Baisse-toi !
Hurla Mike. Les missiles volèrent. Son père n'était pas là lorsque Dwayne arriva chez lui juste avant le coucher du soleil. Alors il alla à travers champs jusqu'à la tombe de Wittgenstein. Le chien avait toujours caché ses os dans un creux du pâturage est. Aussi était-ce cet emplacement que le garçon avait choisi pour l'enterrer. À l'ouest, au-delà des prés et des champs de maïs, au ras de l'horizon, flamboyait ce soleil rouge et ventru de l'Illinois, sans lequel Dwayne ne pouvait concevoir le monde. L'air était bleu-gris et transmettait clairement les moindres bruits. Le jeune garçon entendait le piétinement régulier et le souffle rauque des vaches à l'autre bout du pâturage, bien qu'elles fussent encore sur l'autre versant de la colline. Une écharpe de fumée flottait au-dessus de l'endroit où M. Johnson avait brûlé les broussailles de ses fossés, à presque 2 kilomètres au sud, et l'odeur sucrée de ce feu se mêlait au parfum lourd et poussiéreux de cette soirée. Dwayne s'assit à côté de la tombe de Witt en regardant le soleil sombrer, et le soir se métamorphosait imperceptiblement en nuit. Vénus fut la première étoile à apparaître, brillante au-dessus de l'horizon. Semblable à l'un des ovnis que Dwayne, assis dans les champs, vit à son côté, avait l'habitude de guetter patiemment en fin de journée. Puis d'autres étoiles firent leur apparition, toutes bien visibles, si loin des lumières de la ville. L'atmosphère commençait à fraîchir très lentement, comme à regret. L'humidité de l'air plaquait encore la chemise du garçon à son torse, mais la chaleur du jour finit par se dissiper et la terre sous sa main devint fraîche. Il tapota une dernière fois la tombe de son chien et retourna lentement chez lui. Un retour solitaire et rapide dans l'herbe haute, maintenant qu'il n'était plus obligé d'accorder son pas à celui du vieux collet à moitié aveugle. La cloche des Borgia. Il aurait bien voulu en parler à son père, mais si celui-ci avait passé la soirée chez Carl ou à l'Arbre Noir, il ne serait sûrement pas d'humeur à bavarder. Il se prépara à dîner. Il coupa en rondelles oignons et pommes de terre et fit frire avec compétence des côtes de porc tout en écoutant la radio. Rien de bien nouveau aux informations. La Chine nationaliste avait porté plainte devant le Conseil des Nations Unies pour le bombardement de Quemoy, mais personne dans cette assemblée n'avait envie d'un autre conflit à la coréenne. L'état-major du sénateur John Kennedy annonçait un important discours sur la politique extérieure, mais Ike semblait vouloir attirer toute l'attention sur lui en organisant un voyage en Extrême-Orient. Les États-Unis exigeaient la libération de Gary Powers,
et l'Argentine le retour d'Adolf Eichmann enlevé par les Israéliens. On parlait aussi de la prochaine rencontre entre Floyd Patterson et Ingemar Johansson. Duane monta le son et continua d'écouter la radio en mangeant seul à la grande table. Il aimait bien la boxe. Il avait envie d'écrire un jour une histoire sur ce thème. Des Noirs se vengeant de l'injustice de leurs conditions par leur performance sur le ring. Il avait entendu son père et oncle Art parler de Jackie Johnson autrefois, et l'histoire lui était restée en mémoire, tout comme les intrigues de ses livres favoris.
Cela pourrait faire un bon roman. Du moins, si je m'y connaissais en boxe, et si j'étais mieux documenté sur les problèmes raciaux, et sur Jackie Johnson, et sur la vie, enfin, sur tout.
La cloche de Borgia revint le hanter. Il finit de dîner, fit la vaisselle, y compris celle du petit déjeuner abandonné par son père dans l'évier, la rangea dans le placard et erra dans la maison. Il faisait noir. Seule la cuisine était éclairée et la vieille bâtisse semblait plus abandonnée et mystérieuse que d'habitude. Le premier étage, avec les chambres maintenant inoccupées, pesait comme une présence inquiétante.
La cloche des Borgia aurait-elle été suspendue au-dessus de nous dans Old Central toutes ces années ?
Il hocha la tête et alluma dans la salle à manger. Les versions successives de la machine à apprendre traînaient là, dans toute leur gloire poussiéreuse. D'autres inventions encombraient les établis et le sol. Une seule était en service. Un système pour répondre au téléphone que son père, furieux de manquer tant d'appels, avait bricolé deux hivers auparavant. C'était un montage tout simple, constitué d'un téléphone et d'un petit magnétophone à deux bandes qui, branché sur la prise téléphonique, laissait entendre quelques phrases préenregistrées invitant l'interlocuteur à laisser un message. Presque tous les gens qui téléphonaient raccrochaient sans parler, gênés ou furieux d'avoir affaire à une machine, mais le pater pouvait parfois reconnaître l'identité de ses correspondants par les jurons ou les grommellements enregistrés. En plus, l'agacement que provoquait sa machine l'amusait, surtout lorsqu'il s'agissait de la compagnie téléphonique. Les employés de chez Bell étaient d'ailleurs venus deux fois à la ferme pour menacer de couper le téléphone si M. McBride continuait à violer la loi en trafiquant le matériel et les branchements de la compagnie, sans compter l'infraction aux lois fédérales que représentait le fait d'enregistrer les conversations des gens sans leur permission. Ce à quoi le pater avait fait remarquer que les conversations enregistrées étaient les siennes, que les gens l'appelaient lui et non l'inverse, et que les lois fédérales exigeaient seulement que les gens soient avertis. Or, il le disait clairement dans son message avant d'inviter ses correspondants à parler. D'ailleurs, s'il voulait son avis, la compagnie Bell était un foutu monopole capitaliste qui pouvait se mettre son opinion et ses équipements où il pensait. Mais ces menaces avaient quand même empêché le pater de tenter de mettre sur le marché ce qu'il appelait son « valet téléphonique ». Quant à Duane, il bénissait le ciel que leur téléphone n'ait pas été coupé. Ces derniers temps, Duane avait perfectionné l'invention de son père et maintenant, une lumière indiquait si des messages avaient été enregistrés. Il avait voulu encore améliorer le système, en reliant à des ampoules de couleurs différentes selon l'identité du correspondant, verte pour oncle Art, bleue pour Dale ou un des autres copains, rouge pour la compagnie Bell. Et quoique le problème de l'identification des voix ait été relativement facile à résoudre, les pièces de montage étaient chères et il avait dû se contenter d'une ampoule clignotante. Mais rien ne clignotait ce soir. Pas de message. C'était souvent le cas. Il s'approcha de la porte et regarda au dehors le lampadaire près de la grange. Il éclairait le rond-point et les bâtiments, mais par contraste, les champs derrière paraissaient encore plus noirs. Les rainettes et les criquets étaient bien bruyants. Il resta quelques minutes à contempler la nuit, en se demandant quels arguments utiliser pour décider oncle Art à le conduire à l'université de Bradley le lendemain. Mais avant de rentrer, il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il mit le petit crochet de la porte à moustiquaire et s'assura que la porte de devant, rarement utilisée, était fermée à clé. Il faudrait qu'il reste debout jusqu'au retour de son père pour aller lui ouvrir, mais tant pis. Fermer les portes à clé n'était pourtant pas dans leurs habitudes, même lors des rares week-ends à Peoria ou Chicago avec oncle Art. Il n'y pensait même pas. Mais ce soir, Duane ne voulait pas de porte ouverte. Sachant très bien qu'il suffisait de tirer un peu fort ou de donner un coup de pied dans la moustiquaire pour le faire sauter de l'extérieur, il enfonça en souriant de sa propre bêtise le petit crochet dans l'anneau et rentra appeler son oncle. la petite chambre de Mike se trouvait au-dessus de l'ex-salon devenu chambre de mémo. Le premier étage n'était pas chauffé, mais de larges grilles métalliques encastrées dans le sol laissaient monter la chaleur du rez-de-chaussée. Dans la chambre de Mike, la grille se trouvait juste à côté de son lit, et il pouvait voir sur son propre plafond le reflet de la clarté de la lampe à pétrole servant de veilleuse à mémo. La mère de Mike passait la voir plusieurs fois dans la nuit, et la faible lueur lui facilitait la tâche. En s'agenouillant, il aurait pu apercevoir à travers la grille la pile de couvertures et de plaides sous laquelle reposait sa grand-mère. Il ne le faisait jamais. Cela aurait été par trop indiscret. Mais parfois, il percevait les rêves et les pensées de Mémo qui montaient par la grille. Pas sous forme de mots ou d'images, non. C'était plutôt des soupirs, des courants chauds débordant d'amour ou des bises glacées pleines d'anxiété. Une question hantait le jeune garçon le soir. Si Mémo mourait durant la nuit, est-ce que son âme s'arrêterait en chemin pour un baiser d'adieu, comme lorsqu'il était petit et que sa grand-mère venait le soir le border dans son lit, tenant à la main une lampe à pétrole dont la flamme tremblotait sous son verre? Ce soir-là, Mike, couché sur le dos, regardait les ombres pâles des feuilles s'agiter sur le plafond. Il n'avait pas du tout envie de dormir. Pourtant, il avait bâillé tout l'après-midi et ses yeux étaient rougis par le manque de sommeil. Mais maintenant qu'il faisait nuit, il avait peur de fermer les paupières. Il allait toutefois succomber lorsqu'il sentit un souffle glacial passer auprès de lui, ce qui le réveilla instantanément. Il faisait chaud dans cette pièce sous le toit, même avec la fenêtre ouverte. Mais le souffle qu'il avait effleuré était aussi glacial que les courants d'air des nuits de janvier et chargé d'une odeur de viande crue et de sang congelé qui lui rappela les chambres froides du supermarché. Il s'agenouilla près de la grille. La flamme de la lampe de Mémo s'agitait follement. On aurait dit qu'un ouragan soufflait dans sa chambre et le froid enveloppa Mike, comme si des mains glacées lui serraient la gorge, les poignets, les chevilles. Il s'attendait à voir sa mère surgir auprès de Mémo, drapée dans sa robe de chambre, les cheveux en bataille, mais la maison était silencieuse, à part les ronflements de son père dans la chambre de derrière où dormaient ses parents. Le froid diminua, sembla remonter vers la grille, puis augmenta comme un blizzard. La lampe à pétrole lança une dernière lueur et s'éteignit. Mike eut l'impression d'entendre un gémissement sortir de la masse sombre sur le lit. Il sauta sur ses pieds, empoigna sa batte de baseball et descendit à toutes jambes l'escalier de meunier. Pieds nus, il ne faisait presque pas de bruit. La porte de la chambre de Mémo restait toujours légèrement entrebâillée, mais il la trouva fermée. Il se demanda même si elle n'était pas verrouillée de l'intérieur. Il s'accroupit quelques instants contre le battant, les doigts écartés posés à plat sur le bois, comme un pompier essayant de deviner l'intensité d'un feu. Mais ce fut du froid qu'il perçut. Puis il poussa brusquement le battant et entra, la batte levée, prêt à frapper. La pièce était assez claire pour que le garçon puisse constater qu'elle était vide, à part la masse sur le lit et le fatras familier de photographies dans des cadres et de flacons de médicaments, plus le rocking chair maintenant inutile, l'ancien fauteuil de grand-père dans le coin, le vieux poste de radio encore en état de marche, enfin, le bazar habituel. Mais debout à la porte, batte à la main, Mike était certain que lui et Mémo n'étaient pas seuls. Le vent glacé soufflait et tourbillonnait autour de lui, un maelstrom d'air fétide. Mike avait une fois été embauché par Madame Moon pour nettoyer un congélateur plein de viande hachée et de poulet avarié après une coupure d'électricité de 10 jours. L'odeur était la même, en plus froid et plus répugnant. Il leva sa batte, le vent lui balaya le visage, des ongles de glace griffèrent les parties de son corps que ne couvrait pas son pyjama trop court, des lèvres de givre lui caressèrent la nuque. Une haleine putride frôla ses joues, comme si un visage invisible lui soufflait dans la figure la pourriture du tombeau. Mike jura et fendit d'un coup de batte l'obscurité. Le vent sifflait autour de ses oreilles, mais les papiers dans la pièce étaient immobiles et il n'y avait aucun bruit à l'extérieur, à part le léger froissement des feuilles de maïs dans le champ d'en face. Il retint un nouveau juron et frappa des deux mains, dans une position tenant à la fois de celle du batteur et de celle du catcheur. La bise sombre sembla refluer dans un coin de la pièce. Mike avança dans cette direction, jeta un coup d'œil derrière lui et aperçut le visage de Mémo, livide au milieu des couvertures. Il recula pour se placer entre elles et ce qui était en train d'essayer de l'approcher. Pour la protéger du froid en lui faisant un rempart de sa propre chaleur, il s'accroupit en lui tournant le dos et sentit le souffle sec de la vieille dame contre ses épaules. Du moins, elle vivait encore. Après un dernier souffle, presque comme un rire silencieux, le froid sortit par la fenêtre ouverte comme de l'eau s'écoulant d'un lavabo. La lampe se ralluma d'un coup avec un sifflement qui fit bondir Mike sur ses pieds. Son cœur sauta follement dans sa poitrine et il attendit, batte levée. Le froid était parti. Par la fenêtre n'entrait plus qu'une brise tiède et le bruissement de nouveau audible des feuilles. Il se retourna et se pencha vers Memo. Elle avait les yeux grands ouverts avec la pupille brillante et très noire. Rassuré par sa respiration rapide, il lui toucha la joue.
« Ça va, Memo ?»
Il arrivait, de plus en plus rarement d'ailleurs, qu'elle comprenne les questions et cligne des yeux en réponse. Une fois voulait dire oui, deux fois signifiait non. Un clignement. Oui. Le cœur de Mike se remit à battre la chamade. Il y avait si longtemps que Memo n'avait pas conversé avec lui, même dans ce langage primitif. La bouche sèche, il s'obligea à continuer.
« Tu as senti ça ?»
Un clignement.
« Il y avait quelque chose ici ?»
Un clignement.
« C'était bien réel ?»
Un clignement. L'émotion serrait la gorge du jeune garçon qui coassa.
« C'était quelque chose de dangereux ?»
Un clignement.
« Comme un fantôme ?»
Deux clignements, non. Il la regarda dans les yeux. Hormis ce bref mouvement de paupières, elle était parfaitement immobile. C'était comme s'il parlait à un cadavre.
C'était la mort ?
Un clignement. Elle ferma les yeux. Mike se pencha pour vérifier qu'elle continuait bien à respirer, puis il lui toucha une seconde fois la joue.
« T'en fais pas, Memo !»
lui murmura-t-il à l'oreille.
« Je suis là. Ça reviendra pas cette nuit. Rendors-toi. »
Il resta agenouillé auprès du lit jusqu'à ce que son souffle irrégulier, haletant, paraisse plus calme. Puis il alla chercher le fauteuil de son grand-père et le tira près du lit. Prendre le rocking chair aurait été plus simple, mais ce soir, il voulait s'asseoir sur le fauteuil de son grand-père. Il s'installa, batte de baseball sur l'épaule, entre Memo et la fenêtre. Il était plus tôt ce même soir quand, à peu de distance de chez Mike, Lawrence et Dale allèrent se coucher. Ils avaient regardé Bonanza à la télévision à 21h30, l'unique exception à la règle du coucher à 21h, puis ils étaient montés. Dale entra le premier dans la chambre et chercha à tâtons le cordon de l'interrupteur. Bien qu'il fût maintenant près de 22h, la lueur d'un crépuscule proche de la Saint-Jean inondait la pièce. Couchés chacun dans un des lits jumeaux, à quelques 10 cm l'un de l'autre, les deux frères parlèrent un peu à voix basse.
« Pourquoi t'as pas peur du noir, toi ?»
demanda Lawrence en serrant son panda dans ses bras.
« Mais il fait pas noir ici, la veilleuse est allumée. Tu sais bien ce que je veux dire ?»
Effectivement, et il comprenait combien il était difficile pour son petit frère d'admettre ses frayeurs.
« Je sais pas, je suis plus grand. On n'a plus peur du noir quand on grandit. »
Lawrence écouta les pas de leur mère, juste perceptibles, allant de la cuisine à la salle à manger, puis inaudible lorsqu'elle marcha sur le tapis du salon. Leur père n'était pas encore rentré de tournée.
« Mais avant, tu avais peur du noir alors ?»«
Pas tant que toi, Froussard, »
eut-il envie de répondre. Mais ce n'était pas le moment de taquiner le petit.
« Oui, un petit peu, quelquefois. T'avais peur du noir ?»«
Ouais. »
Et d'entrer pour allumer ? Quand j'étais petit, dans l'appartement de Chicago, ma chambre n'avait pas d'interrupteur à cordon. C'était un bouton dans le mur. Oh, si seulement on habitait encore là-bas ! Oh non !
Protesta Dale en croisant les mains derrière la nuque pour contempler sur le plafond l'ombre mouvante des feuilles.
Non ! Cette maison est 1000 fois mieux, et on s'amuse 100 000 fois plus à Elmhaven qu'à Chicago. Là-bas, pour jouer, on était obligé d'aller à Garfield Park, et il fallait toujours qu'un adulte vienne avec nous. Je m'en souviens vaguement.
Lawrence avait à peine 4 ans lors du déménagement.
Mais t'avais vraiment peur du noir alors ?
Insista-t-il.
Ouais.
Dale ne se souvenait pas d'avoir jamais eu peur du noir dans l'appartement. Mais il ne voulait pas faire honte à son frère.
Et du placard aussi ? On avait un vrai placard là-bas.
Mais t'en avais peur ?
Je sais pas, j'ai oublié.
Pourquoi t'as peur de celui-ci ?
Sans répondre, Lorenz s'enfonça dans ses draps.
Il y a quelque chose qui fait du bruit là-dedans,
finit-il par chuchoter.
Cette vieille maison est pleine de souris, Bêta. Papa et maman sont toujours en train d'y mettre des tapettes.
Récupérer les cadavres dans les souricières faisait partie du travail de Dale et il détestait ça. Il était exact qu'on entendait souvent des trottinements dans les murs, même au premier étage.
C'est pas des souris.
La voix de Lorenz commençait à devenir ensommeillée, mais il était sûr de ce qu'il avançait.
Comment tu le sais ? Qu'est-ce que tu crois que c'est ? Un monstre ?
Malgré lui, l'affirmation de Lorenz l'avait glacé.
Pas des souris en tout cas.
Ce qui guette parfois sous le lit ?
Lorenz dormait aux trois quarts.
Il n'y a rien sous le lit, à part des moutons.
Répondit sèchement son frère qui en avait assez de cette conversation. Lorenz tendit la main vers l'autre lit.
S'il te plaît, Dale.
Sa manche lui arrivait à peine au coude, mais cette pseudo-tenue de Zorro était son pyjama préféré. Cette nuit encore, Dale accepta de tenir la main de son frère. Lui-même avait besoin de se sentir rassuré.
« Bonsoir, »
murmura-t-il.
« Dors bien. »«
Je suis content que t'aies pas peur, toi, Dale. »
marmonna le petit d'une voix pâteuse. Les doigts de Lorenz dans les siens paraissaient tout petits à son aîné. Il ferma les yeux, et la gueule du calibre 22 de CJ braquée sur son visage lui apparut. Il sursauta, le cœur battant. Ce n'était pas l'obscurité qui l'effrayait, lui, mais des menaces bien réelles. Ce jeu de chercher Toby Cook, de filer Rune et les autres était terminé, du moins en ce qui le concernait. C'était stupide, et l'un ou l'autre de leur bande allait finir par attraper un mauvais coup. Il n'y avait pas de mystère à Elmhaven, juste une bande de trouducs comme CJ et son père, tout à fait capables de devenir dangereux s'ils les trouvaient sur leur chemin. Jim Harlan s'était déjà cassé le bras, probablement à cause de leur petit jeu d'espionnage. Cet après-midi, il avait bien eu l'impression que Mike et Kevin en avaient assez, eux aussi. Bien plus tard, Lorenz poussa un soupir et se retourna, serrant toujours son panda contre lui, mais il lâcha la main de son frère. Celui-ci se mit sur le côté et commença à s'assoupir. Derrière la moustiquaire, les feuilles de chêne bruissaient et dans l'herbe, les criquets répétaient leur rengaine. En s'endormant, Dale entendit sa mère repasser dans la cuisine. Pendant un moment, il n'y eut aucun bruit dans la chambre, sinon la respiration régulière des deux enfants. Dehors, un oiseau, tourterelle ou hibou, poussa un cri rauque. Puis, plus près, dans le placard, il y eut un grattement, un crissement d'ongles, une pause, et un dernier raclement de griffes avant que tout ne soit silence.